Comme la semaine dernière, Monsieur Julien, vous allez aujourd'hui nous présenter le visage de Saint-Antonin après la guerre de Cent Ans. Et Madame Julien, qu'avez-vous choisi comme musique aujourd'hui ?
Il s'agit toujours d'une période de renouveau dans la vie de la cité, dont nous écouterons encore des danses de l'époque, disons plutôt de la fin du XVe siècle. Bien sûr, l'enregistrement de ces danses est moderne. Bien sûr, on ignore souvent leur origine, mais les instruments utilisés sont bien connus. Et les facteurs d'instruments d'aujourd'hui les ont fidèlement reconstitués. Pour les vents, par exemple, le cornet à bouquin, le trombone, les cromornes, les flûtes à bec. Pour les cordes, les violes de gambe, la viole remplace la vielle à archer du Moyen-Âge qui était utilisée par les troubadours. Et aussi le luth, la mandore, et puis les divers instruments de percussion, dont le tambourin. Vous entendrez donc, d'abord, une pavane, lente, gracieuse, savante. Puis, une allemande, assez lourde, bien rythmée. Encore une pavane, et pour finir, une gaillarde, danse vive, très enlevée, comme son nom le dit.
Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez expliqué qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, le pouvoir communal s'était retrouvé très affaibli.
Oui, j'avais bien dit que le nombre de consuls avait été réduit de 12 à 6, et j'avais expliqué cette réduction en fournissant des explications de caractère économique, c'est-à-dire que l'appauvrissement de la classe bourgeoise, du moins des plus riches, faisait qu'il était maintenant un peu trop onéreux d'accepter la charge de consul, qui, vous le savez, était une charge bénévole et qui représentait pour celui qui l'exerçait une charge considérable. Bon, ça c'était une cause, mais je pense que ce n'est pas la seule et qu'il faut aussi, me semble-t-il, envisager une cause politique. Dès ce moment, nous assistons à la croissance du pouvoir royal sous Louis XI, tout le monde le sait. Et Louis XI qui prépare, d'ailleurs, peu après lui il y en aura d'autres, mais enfin qui prépare ce régime de monarchie absolue, de droit divin, que Louis XIV illustrera parfaitement. Et peu à peu, c'est l'administration royale qui s'ingère dans les affaires communales, et le pouvoir des décisions des consuls est progressivement réduit dans tous les domaines, par exemple au plan des finances. Maintenant, c'est le roi qui impose la taille, qui impose les villes, et les consuls sont tout juste chargés de répartir les impôts royaux. Pour les affaires militaires, c'est l'affaire du roi qui a maintenant créé une armée permanente avec des gendarmes, et tout juste si les consuls ont la liberté de désigner les 4 ou 5 archers qu'ils doivent fournir à l'armée royale et équiper en conséquence. Au plan de la justice même, on voit sans cesse surgir et se développer des conflits de préséance et d'attribution entre le sénéchal et les consuls pour l'exercice de la justice. La présence de ces nombreux conseillers de ville, 70, nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas, n'est à mon sens qu'illusoire aussi sur ce plan-là de la compétence et du pouvoir des consuls.
Oui, alors comment on peut expliquer que l'augmentation du nombre de conseillers de ville se traduise en fait par une diminution de la démocratie à Saint-Antonin?
Ça a l'air, ça, d'être surprenant, bien sûr. On augmente le nombre de conseillers de ville et j'ai l'air de dire que la démocratie, au contraire, diminue. Mais ce n'est pas si paradoxal que ça, vous savez. Autant il est nécessaire pour exercer un pouvoir démocratique que plusieurs personnes y collaborent, autant une nomination abusive de conseillers, de participants aux décisions, ne peut que freiner l'exercice démocratique de ce pouvoir. C'est un peu un abus, ça, hein. C'est pour tromper les personnes. Et les consuls sont bien contents de dire « Ah, mais nous ne sommes qu'aussi, c'est vrai, mais nous avons 70 conseillers de ville. » Vous voyez, on a pris la vis de 70 conseillers. La personne n'est dupe dans cette affaire-là. Il est sûr que ça ne sert aux consuls que de caution pour dire « Voyez, c'est quand même démocratique. » Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que se développe d'abord et avant tout le pouvoir royal et en même temps le culte de la personnalité. C'est pas nouveau le culte de la personnalité, ça commence là. La personnalité du roi. Hein. Rappelez-vous, dans la dernière émission, quand j'avais cité ce paragraphe du livre des Comptes qui, parlant du passage de l'armée royale à Saint-Antonin, qui allait conquérir ou libérer la Guyenne, comme on voudra, parlant du roi, dit « Le rei de France, alcaldi udone bunovido e lungo ». C'est un personnage, vous voyez, qu'on souhaite conserver parce qu'il est précieux, c'est un homme qui maintenant représente quelque chose qui n'est pas seulement du humain, c'est quelque chose d'au-dessus des hommes. Et nous avons, dans le livre des coutumes, un texte qui ne manque pas de saveur et qui est une relation de la cérémonie faite à Saint-Antonin à l'occasion de la mort du roi Charles VIII. Ce roi Charles VIII a eu la malencontreuse idée de passer par une porte un peu trop vite. Comme à cette époque-là, les portes avaient le linteau très bas, c'était des portes encore anciennes. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était au château de Blois ou au Louvre, j'en sais rien. Mais enfin, en passant par la porte, c'est pourtant il n'était pas très grand. Hein. Il s'est donné un coup de tête contre la porte, il en est mort. Et d'ailleurs, voyez, notre livre des coutumes le dit avec beaucoup de tristesse qu'en 1498, la veille des rameaux, qui était le septième jour d'avril, le rei Charles en est debido a tres pasomen, c'est-à-dire le pauvre roi Charles, à la devis à trépas. Alors on lui fit ici à Saint-Antonin de grandes honneurs, ce qu'on appelait la Junours. Hein, et les consuls ont organisé une manifestation extraordinaire, vous allez voir. Et je vous transcris le texte en français parce qu'il est encore en occitan celui-là. À ces honneurs vinrent près de la maison du consulat messieurs le prieur mage, les chanoines et les curés et les frères mineurs, c'est-à-dire les cordeliers et les carmes. Et ils chantaient tout cela comme si le corps du roi était là présent. Et les messieurs chanoines portaient les quatre bourdons et tous les cierges de toutes les confréries et des offices, avec 12 torches que firent faire les seigneurs consuls. Et il y avait devant la maison consulaire, on avait dressé une sorte de catafalque, énorme monument. Ce catafalque qu'on appelle l'outahuc était couvert avec un drap d'or orné des panneaux royaux, des panonceaux royaux, des armes royales. Et il y avait là 6 curés qui tenaient le pavillon, c'est-à-dire un drap mortuaire, tendu au-dessus du catafalque pendant tout le temps que l'office a duré. Et alors tenez-vous bien là, autour à ce rassemblement pour ces honneurs du roi, on a compté cette année-là 4000 personnes. Et tous les enfants de la ville tenaient à la main une chandelle que leur avaient fournie les seigneurs consuls. Et pendant toute la durée de cette cérémonie, le tocsin a sonné à toutes les églises, à l'église de l'abbaye, à l'église des Cordeliers, à l'église des Carmes et à l'église de Saint-Michel. C'était quelque chose d'extraordinaire, qui montre bien que le roi, la personne du roi, représente quelque chose de considérable dans l'esprit des citoyens saint-antoninois. Nous sommes bien loin du XIIe siècle. C'est donc bien que le pouvoir communal maintenant qui s'est restreint passe ailleurs.
Thank you.
Monsieur Julien, vous nous avez expliqué que les finances de Saint-Antonin, après cette guerre de 100 ans, étaient très affaiblies. Alors, que devient notre économie ?
Oui, l'économie se rétablit assez vite, d'ailleurs, après la fin de la guerre de 100 ans. La guerre, malgré ses drames, a multiplié les contacts entre les populations. Elle a ouvert de nouvelles voies d'échange. Elle a introduit de nouvelles techniques. Cela n'a rien d'original, il en est toujours ainsi. Les grandes foires de Lyon, qu'a créé Louis XI, ouvrent une nouvelle voie, une importante voie commerciale vers l'Europe du Nord, notamment pour le commerce du safran, qui prend de l'ampleur à ce moment-là. Et c'est à Lyon, en 1503, qu'un marchand de Saint-Antonin traite avec une compagnie de marchands allemands, ainsi comme le note l'historien Henri-Ange Albert dans son livre « Histoire du Rouergue » que je recommande à tous ceux qui aiment l'histoire de notre province. Cette reprise économique s'accompagne d'une réorganisation des corps de métier, et cela me paraît très important. On sait que les consuls, depuis le XIIe siècle, au moment de leur entrée en charge, nommaient différents fonctionnaires communaux, et en particulier les gardes chargés de la surveillance de la fabrication des draps et les gardes chargés de la boucherie. Autrement dit, il y avait deux métiers qui étaient surveillés étroitement, c'était la fabrication des draps et l'abattage et la vente des chairs, comme on disait alors. Et ce qui est curieux, c'est que si on regarde attentivement le livre de comptes de 1465, donc du XVe siècle, on trouve que non seulement les consuls nomment les gardes de la draperie et des boucheries, mais aussi beaucoup d'autres. En effet, ils nomment des gardes als faures, c'est-à-dire aux forgerons et serruriers, als teissieres, c'est-à-dire aux tisserands, als Pairouliès, c'est-à-dire au chaudronnier. Ils en nomment al-safran et al-safraniès, c'est-à-dire à ceux qui extraient la teinture de cette plante qu'est le safran. Autrement dit, nous trouvons une surveillance exercée sur quatre métiers supplémentaires. Et cela traduit une nouvelle organisation sociale et économique qui se fait jour à partir du XVe siècle. C'est le regroupement des travailleurs dans ce système que l'on appelle les corporations et dont tout le monde dit qu'elle date du Moyen-Âge. Voilà encore une idée reçue. Le Moyen-Âge, c'était l'époque de la liberté. À la fin du Moyen-Âge, s'introduit cette contrainte qu'on appelle les corporations et qui sera une des causes de l'existence des corporations de la Révolution de 1789. On n'a plus le droit d'exercer son métier librement, on est inféodé à une corporation. Et chacun sait que dans cette corporation, il y a une hiérarchie qui va de l'apprenti jusqu'au maître. Hiérarchie pesante, si pesante même, et que, au bout du compte, celui qui n'a pas de bien n'arrivera jamais à être maître. Mais d'ailleurs, sans que le livre de comptes les cite, il y a d'autres métiers qui se sont développés ainsi dans cette ville qui maintenant devient prospère à la fin du XVe et au début du XVIe. Ce sont les orfèvres. Les orfèvres très, très nombreux à Saint-Antonin, ils étaient encore 6 à la Révolution et à ce moment-là, au XVIe, ils sont nombreux. Et l'une des maisons d'orfèvres, l'une des maisons de ces orfèvres subsiste encore aujourd'hui, c'est l'actuelle maison Léris, dont l'arcade qui est vers le musée, la dernière arcade vers le musée, porte un écusson qui est la marque d'un orfèvre. Vous le regarderez attentivement, cette très belle arcade et cette très belle maison du XVIe siècle, justement. Il y a d'autres professions qui apparaissent dans la ville. C'est celle de barbier. On veut faire comme Louis XI. Louis XI était toujours suivi de son barbier. Maintenant, il y a un barbier. Il y a plusieurs barbiers même à Saint-Antonin. Les barbiers étaient des perruquiers et des perruquiers médecins. Plus tard, on les appellera des chirurgiens, parce que ils avaient ce pouvoir quand vous étiez un peu malade ou que vous aviez besoin de quelques soins, ils vous saignaient au bras pour prendre du sang. C'était la pratique de la saignée qui apparaissait alors. Et enfin, il y avait le médecin. Le médecin qui, lui, était licencié en médecine. Et nous avions un médecin assez célèbre. C'était surtout à cause de la peste qui, depuis maintenant des années, fait des ravages presque tous les ans. La peste menace tous les ans. Alors, ma foi, comme on a vu que les processions, ça n'avait pas beaucoup de résultats, on s'est résolu, en fin de compte, à engager un médecin. Il y a donc un médecin communal à Saint-Antonin qui soigne les gens malades et surtout les pauvres de l'hôpital. Quand il y a une épidémie de peste, il a un procédé curieux, vous voyez, que j'ai trouvé dans l'histoire de Caylus par De Vals. Et nos amis de Caylus ont des documents aussi très intéressants. Alors voici ce que le médecin recommande à ceux qui vont dans les maisons où il y a des malades pestiférés ou qui risquent d'être pestiférés. Voici ce qu'il leur recommande. Il leur recommande de mettre sur leur nez une pomme de senteur et faire cette pomme de senteur, voilà, vous allez la faire en prenant du benjoin, de la bardane, de l'iris de Florence, du musc fin, du levain, de la myrrhe, de l'aloès, du mastic, du savon de gêne, et alors tenez-vous bien, après tous ces ingrédients mystérieux venus de loin, il faut ajouter à tout ça, après avoir bien écrasé, bien mêlé, la tierce partie d'un clou de girofle. Mesdames, exercez-vous à prendre la tierce partie d'un clou de girofle. Et voilà comment on pouvait, sans crainte, aller dans une maison de malade en se mettant sur le nez cette espèce de tampon fait avec ses corps mystérieux.
Monsieur Julien, avec ce corporatisme que vous nous décriviez, c'est un peu une mentalité nouvelle qui apparaît.
Effectivement, c'est une mentalité nouvelle qui tranche considérablement avec ce qu'était la vie collective, solidaire du vrai Moyen-Âge. Maintenant, cette concentration des métiers va, la difficulté de parvenir à un haut échelon va développer l'esprit individualiste, une exaspération même de l'individualiste, va développer la défense à tout prix des intérêts particuliers. Et évidemment, cela va se traduire par l'enrichissement excessif peut-être par le commerce et l'industrie de la classe bourgeoise et l'appauvrissement de ceux qui ne peuvent pas accéder à ce niveau-là. D'ailleurs, cet appétit des biens matériels, ce souci de se servir soi-même d'abord, est illustré parfaitement, à mon avis, par ce phénomène auquel on assiste au XVe siècle, et ensuite dans les siècles suivants, la multiplication des notaires qui sont là pour assurer les actes de vente, les prêts, les testaments, les reconnaissances de dette, tout cela en latin d'ailleurs, ce qui démontre bien que les pauvres n'y participent pas beaucoup.
À notre époque, où les moyens modernes de distraction ont pris une grande importance, on a du mal à imaginer ce que pouvait être la vie des Saint-Antoninois en dehors de leur travail. Vous pouvez essayer de nous le décrire.
Oui, d'après les documents que l'on peut extraire, des livres de comptes ou autres, il semble que, ma foi, cette population, qui est très laborieuse, il faut le dire, a aussi ses moments de loisirs, de détente, et aussi, il faut encore ça reste, ces moments d'exaltation collective. Ben, il y a d'abord les grandes fêtes religieuses. La plus grande de ces fêtes, c'est celle que l'on appelait del Berai Cors de Dio, c'est-à-dire la fête de Dieu. Il n'en subsiste plus aujourd'hui comme trace que ces fameux anneaux plantés dans les façades de nos vieilles maisons, et j'ai déjà parlé, ces anneaux de fer dans lesquels étaient posées des barres, sur lesquelles étaient tendus les draps fleuris ou les tapisseries qui avaient pour objet de décorer, de fleurir les façades des maisons pour la fête Dieu, cependant que les rues elles-mêmes étaient jonchées de fleurs ou d'herbes, des rauges ou de paille. Et le cortège des religieuses et des fidèles défilait ainsi dans les grandes rues de la ville, de l'abbaye jusqu'au consulat et à la place du consulat, c'est-à-dire à la place du musée actuel, conduit par les musiciens qui précédaient le cortège, cependant que des hommes pieux portaient sur leurs épaules les reliques de saint Antonin. Ces fêtes religieuses, cependant, ne sont pas toujours bien observées. On assiste à une sorte de désintérêt de la population qui ne plaît pas beaucoup au prieur mage du chapitre, qui exige par le contrat de 1454 imposé au consul qu'il sera célébré dans l'année obligatoirement 52 fêtes religieuses obligatoires à l'intérieur de la ville comme hors de la ville. Alors, quand on dit que les gens d'aujourd'hui ne travaillent pas, si vous faites le compte, 52 jours de fêtes chômées, plus, comme je l'avais dit la dernière fois, la moitié de la journée de la veille, plus les 52 dimanches, faites le compte, vous verrez que, ma foi, les 5 semaines de congé, seulement ils n'étaient pas payés, existaient. Seulement, on assiste, c'est vrai, à un relâchement dans la pratique religieuse, et c'est ce qui a motivé cette décision du prieur mage. Il existe aussi une troupe théâtrale, et ça nous ne le savons pas par nos archives à nous, mais nous le savons toujours par les archives de Caylus. Il y a à Saint-Antonin une troupe de théâtrale qu'on appelle les confrères de Saint-Antonin, et qui jouent du théâtre, mais un théâtre religieux, on appelle ça des mystères. Ils les jouent lors des grandes fêtes religieuses, et ce sont les mystères, le mystère de la Passion, les enfants d'Israël, le mystère de la résurrection, et tant d'autres qui retracent au fond la vie du Christ. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les gens de Caylus, qui sont une toute petite ville, les pauvres, quand ils veulent faire une grande fête, ils font venir les confrères de Saint-Antonin pour jouer du théâtre là. Et ces confrères de Saint-Antonin sont payés par les consuls de Caylus. Il existe des musiciens. Et alors là, un changement aussi qui marque bien la nouvelle époque. Jusqu'à présent, pour les fêtes religieuses essentiellement, mais pour d'autres cérémonies, les consuls mentionnaient dans leur livre de compte qu'ils avaient donné un salaire ou une étrenne als tamburinaires et al cornomusaires, c'est-à-dire aux joueurs de tambourin et de cornemuse ou de cabrette. Et maintenant, le mot cornemusaire disparaît et l'on voit apparaître los menestries. C'est le signe qu'un nouvel instrument de musique fait son apparition à Saint-Antonin à ce moment-là, certainement la viole ou la vielle. Je le pense du moins, à moins que ce ne soit une transposition du mot ménétrier venu du Nord, mais je pense quand même que c'est un nouvel instrument, on se met à la mode. Et ces ménétriers d'ailleurs sont célèbres puisque les consuls de Caylus, encore une fois, les engagent pour leurs fêtes. Et ces musiciens participent aux fêtes religieuses, bien sûr, à toutes. À l'intronisation des consuls, au moins à la Toussaint. Et ils participent aussi aux fêtes profanes. Il ne faut pas oublier que les gens dansaient beaucoup à cette époque-là et ils allaient danser sur l'esplanade du Tour du Pré, là où est la place des Tilleuls actuellement. Et sur cette place même, ils se livraient aussi à des jeux comme les jeux de quilles. Les jeux d'ailleurs qui sont nombreux, les gens jouent beaucoup et ils jouent de l'argent. Ils jouent de l'argent aux dés, aux cartes, dans les cabarets, sur les places même. Enfin, il y a un grand spectacle. Malheureusement, il n'est pas régulier, il est exceptionnel. Ce sont les exécutions capitales. Il y a à Saint-Antonin un maître des œuvres, des basses œuvres, pourrait-on dire, hein, c'est-à-dire une sorte de Deibler, un exécuteur public, qui est chargé de faire, d'exécuter les sentences prononcées par les consuls, et ne l'oublions pas, les consuls avaient pouvoir de condamner à mort les voleurs ou les gens qui avaient tué, qui avaient assassiné. Et c'est justement dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, dans les archives de Caylus, que je trouve cette mention du maître des œuvres de Saint-Antonin. En effet, De Vals nous dit ceci. En 1532, il s'agit de Caylus. Le maître des œuvres de Saint-Antonin vient à Caylus faire l'exécution de Picard, condamné par les consuls à avoir la tête tranchée. Et il reçoit pour ses honoraires la somme de 10 sols. C'est beaucoup. C'est 5 fois plus qu'on ne donnerait à quelqu'un pour faire une journée de labour. Une rétribution de 10 deniers est aussi allouée à un sergent de Saint-Antonin pour avoir sonné la trompette pendant le supplice de Picard, pour avoir suspendu le corps du supplicié aux fourches patibulaires et pour avoir mis sa tête sur un pal qui fut planté au carrefour de Pêche-Tourndols. C'est ça qui se passe à Caylus. Ici, dans nos livres, les consuls n'ont jamais osé décrire une exécution capitale. Nous savons qu'il y en avait, et ce corps suspendu aux fourches patibulaires, d'ailleurs, on l'y laissait jusqu'à ce qu'il soit tellement décomposé qu'il tombe par terre tout seul. Alors à ce moment-là, le sergent de ville était commis par les consuls à aller le ramasser et à l'ensevelir.
Monsieur Julien, est-ce qu'on sait où se trouvaient ces fourches patibulaires à Saint-Antonin ?
Assurément, les fourches patibulaires étaient sur l'esplanade de la Porte du Pré, encore une fois, c'est-à-dire la place des Tilleuls. C'était un gibet, une sorte de potence de bois assez haute pour que quelqu'un qui était pendu à la potence ne puisse pas toucher terre, bien sûr. Je ne vais pas décrire maintenant la pendaison de l'homme, parce que c'est la pendaison qui était normale. Ici, dans le cas de Caylus, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'était un grand bandit. Enfin, ne parlons pas trop de ces choses macabres, hein. Et heureusement pour les Saint-Antoninois, c'était quand même des cérémonies rares et qui n'altéraient pas la vie collective. Thank you. Et voilà, sommairement décrit, quelques aspects de la vie à Saint-Antonin au XVIe siècle, où, malgré les alertes nombreuses dues à la peste, qui maintenant est devenue quasiment endémique, malgré les intempéries que nous connaissons encore aujourd'hui, les inondations, les gelées plus nombreuses qu'à notre époque, notamment en avril 1548, une gelée qui a duré pendant 13 jours, a détruit tous les pruniers et toutes les prunes, bien sûr. Malgré les orages nombreux et des orages de grêle, et à ce propos, on procédait à une sorte de protection contre l'orage en faisant sonner le tocsin chaque fois que le ciel devenait menaçant. Et là, un homme était préposé à sonner le tocsin, on le payait, d'ailleurs les consuls le payaient, et le livre de compte porte comme mention, nous avons payé à un tel parce qu'il a sonné pour le bien de la terre mère, per l'ube de la terre mère. Et suivant les années, le nombre de sonneries était plus ou moins important. Malgré tout cela, donc malgré tous ces risques, ces désagréments, ces intempéries, cette peste, la ville connaît une vie intense, c'est incontestable. Vie intense grâce à laquelle va se dessiner, comme je l'ai dit plus haut, une mentalité moderne. Maintenant, l'époque de soumission est révolue. Celle aussi de la grande foi collective, où tout le monde avait la même foi et la pratiquait de la même façon. L'individu prend conscience de lui-même et son esprit critique s'assère. Alors, maintenant, en ce milieu du XVIe siècle, va s'ouvrir la renaissance intellectuelle qui affectera l'Église. Par ce bouleversement profond que sera la réforme protestante dans laquelle notre ville va être lourdement impliquée.